Merci d'être avec nous. Nous sommes à votre service hein, tous les matins jusqu'à 10h avec un spécialiste. Ce matin, c'est le notaire Laurent Ginesta. Bonjour maître.
Bonjour Thomas.
Héritage, succession, donation, acte notarié, on parle de tout cela avec vous. Vous êtes prêt à répondre à toutes les questions ?
Ça va fuser.
Ok, très bien. Ben, top départ, c'est parti. 05 58 46 50 50. Profitez de la présence donc de notre notaire Laurent Ginesta pour lui poser votre question. On est là pour vous aider donc jusqu'à 10h. Nous sommes donc à votre service, on vous aide hein, tous les jours avec nos différents spécialistes. Ce matin, vous pouvez compter sur Laurent Ginesta, il est notaire, il vous aide en direct au 05 58 46 50 50. Alors, cette chanson, les divorcés, ben, ça nous donne envie de parler précisément des conséquences que ça peut avoir sur la succession, sur l'héritage. Il y a des mises en garde quand même
oui,
là-dessus.
Ça nous inspire.
Ouais. Par exemple, comment ça se déroule un divorce par consentement mutuel quand il y a des biens immobiliers ?
Alors, y a une sorte de procédure à respecter, on va dire, un mode d'emploi en matière de divorce par consentement mutuel avec des biens immobiliers pour éviter de perdre du temps, qu'on soit efficace, parce qu'il y a plusieurs intervenants qui vont se succéder entre banquiers, notaires, avocats. Il y a quand même des professionnels à consulter dans le bon sens. Quand il y a des biens immobiliers et que l'un des époux désire les conserver, si on vend effectivement le bien immobilier, il n'y a plus trop de sujets, mais quand on désire faire reprendre le bien par l'un ou l'autre des époux, il dit « mais moi, nous séparons, mais je vais reprendre la maison et donc je vais reprendre le prêt afférent », il faut en premier lieu consulter son notaire pour vérifier si, pour lui expliquer qu'on est en train de divorcer et qu'on entend faire en sorte que l'un des deux époux reprenne le bien. Parce que le notaire va dire, très bien, dans ce cas-là, je vais commencer à établir un partage de communauté. Souvent, les gens sont en régime de communauté. Si les époux sont mariés sous un régime de séparation de biens, c'est exactement la même solution. Mmh. Donc, on va établir un partage dans lequel on va attribuer le bien à l'un, à charge pour celui qui reprend, de reprendre le crédit. Souvent, il y a un crédit commun. Hein. Mm-hmm. Rares sont les couples qui divorcent avec un prêt qui est remboursé, quelques-uns, mais le lot, on va dire, des divorces se constitue de personnes qui sont encore endettées. Donc, à ce niveau-là, le prêt doit être repris par l'époux qui reprend le bien. Et là se pose un souci parce qu'il faut effectivement que celui qui reprend puisse le reprendre et que la banque soit d'accord pour muter le prêt qu'à l'époux qui va reprendre le bien. Mmh. Donc le notaire établit un projet de l'acte de partage de communauté pour bien montrer au banquier que le bien, à l'issue des opérations de divorce, va être mis au nom de l'époux qui reprend. Les époux ou l'époux qui reprend le bien va porter ce projet d'acte de partage, ce projet, le notaire a travaillé en amont, va porter l'acte de partage, ce projet qui n'est pas signé à son banquier. Le banquier va dire « oui, effectivement, je peux désolidariser l'époux qui ne reprend pas le bien, l'autre qui s'en va ». Ou je ne peux pas désolidariser l'époux, et dans ce cas-là, il y a un sujet, il y a d'autres problèmes, il faut revenir voir son notaire. Mais une fois que l'époux qui reprend le bien aura obtenu du banquier une désolidarisation, on va dire un effacement de l'époux qui ne reprend pas le bien, le prêt était aux deux noms, il reste au nom de celui qui reprend, eh bien le notaire va pouvoir faire son partage, il va pouvoir écrire que le bien va revenir à ce seul époux, et envoyer ce partage aux avocats qui pourront effectivement rédiger la convention de partage, la convention de divorce, pour que le divorce puisse être prononcé par le notaire. Après, ça revient chez le notaire. Ouais. Mais il y a ce processus qui fait que on va voir son notaire, on dit ce qu'on veut faire quand on veut reprendre le bien. Si on vend, il n'y a pas de sujet. Mais si on veut reprendre le bien, on va voir son notaire, on établit un acte de partage à titre de projet, c'est-à-dire le notaire le fait, ne le signe pas, les gens ne le signent pas. Nous le donnons à titre de projet à l'époux qui doit reprendre le prêt. L'époux qui doit reprendre le prêt va voir son banquier. Le banquier dit « bah oui, ça passe, parce qu'avec vos revenus actuels, je peux désolidariser monsieur ou madame qui ne reprend pas. Le prêt était à deux noms, il passe à un seul nom. » Et une fois que le banquier a donné son accord, eh bien, on revient chez le notaire, on dit « ça y est, j'ai le feu vert du banquier, le partage peut se signer, le notaire le signe, l'envoie à l'avocat, l'avocat signe la convention de divorce, et après ça revient chez le notaire pour divorce définitif. » Ça ne fonctionne que dans ce sens. Ouais. Tout autre chronologie ne fonctionne pas, ou alors ce sont des errements qui peuvent hanter la procédure divorce d'époux qui pourtant voudraient y arriver.
Et ben justement, vous qui nous écoutez, si vous avez des questions concernant le divorce, parce qu'on peut être encore une fois sur cette même thématique, les successions, l'héritage, la donation, Laurent Ginesta est là donc pour vous aider, notre notaire. Vous pouvez le joindre au 05 58 46 50 50. Merci d'être avec nous sur France Bleu Gascogne. Toujours à votre service avec le notaire Laurent Ginesta qui répond en direct à toutes vos questions au sujet de l'héritage, de la succession, de la donation, les actes notariés. Vous nous appelez au 05 58 46 50 50. J'ai une petite question à vous poser concernant l'immobilier. Pour un achat immobilier, il faut absolument passer par un notaire.
Oui.
C'est obligatoire. Mais qui passe ? C'est le vendeur ? C'est l'acquéreur ?
Alors, effectivement, les achats immobiliers se font exclusivement par notaire. Pourquoi ? Parce que le notaire a un monopole d'inscription au fichier immobilier. Et quand vous achetez une maison, un appartement, quelque chose comme ça, un terrain, si vous voulez, de la forêt, c'est inscrit au fichier immobilier pour que le fichier immobilier mette à jour le cadastre à l'effet de percevoir les taxes foncières et que vous soyez, au vu des tiers, propriétaire de ce que vous achetez et payé au vendeur. Bon, ça, c'est un point de départ. Après, sur les sujets qui fait quoi, si on veut parler du ou des notaires, effectivement, le vendeur peut avoir son notaire. L'acquéreur peut avoir son notaire.
Ah, donc ça veut dire qu'on peut avoir deux notaires.
On peut avoir
peut-être plus même.
Non. Alors, non. Il peut y avoir autant de notaires que de parties.
Okay.
Si monsieur et madame divorcent et vendent à monsieur Durand, monsieur et madame qui divorcent peuvent avoir un notaire chacun. Mmh. Voilà, c'est possible.
Bon, et monsieur Durand aussi.
Et monsieur Durand a un
notaire.
Voilà, donc il peut y avoir trois notaires sur une vente, ou quatre, ou cinq, ou six, c'est pas gênant. Il n'y a pas de problème. En soi, le vendeur peut avoir son notaire, l'acquéreur peut avoir son notaire, ce n'est pas une obligation. Les dossiers peuvent se traiter avec un notaire unique. Pourquoi ? Parce que le notaire n'est pas avocat. Donc il ne peut pas conseiller un client au détriment de notre. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, c'est contre nature. Mmh. Le notaire a bien du mal à aller conseiller son client vendeur, par exemple, s'il agit en concours avec un autre notaire acquéreur, on va dire, quand son client a évidemment tort. C'est quelque chose de complexe pour nous. On ne défend pas on assiste, mais on ne défend pas. Ça, c'est quelque chose de très important à dire. Mais oui, il peut y avoir un notaire pour le vendeur, un notaire pour l'acquéreur. Si une situation se présente au notaire, il faut savoir que, alors, régionalement, pour les Landes, et la cour d'appel de Pau, c'est-à-dire les Landes, le 64 et le 65, il y a une règle qui veut que c'est le notaire de l'acquéreur qui va rédiger l'acte définitif, qui va rédiger et l'avant-contrat, qu'on appelle vulgairement sous-sein privé, et l'acte définitif. C'est lui qui va le rédiger, donc qui va constituer tout le dossier à l'effet de faire en sorte que la vente immobilière puisse se passer. État civil, urbanisme, droit de préemption, état hypothécaire, vérification sur les diagnostics. Enfin, tout ce dossier est fait par le notaire de l'acquéreur et le même notaire rédige l'acte définitif. Et le rendez-vous de signature se passe chez le notaire de l'acquéreur. Le notaire du vendeur assiste son client vendeur à l'effet de lui informer de la procédure, comment ça se passe, où ça en est, et éventuellement lui calcule d'éventuelles impositions, notamment sur les plus-values immobilières.
Mmh. Ok, donc on peut avoir plusieurs situations.
On peut avoir plusieurs situations, plusieurs notaires. Attention, quand il y a plusieurs notaires, ce n'est pas plus cher pour le client acquéreur. C'est le même prix, parce que c'est l'acquéreur qui paye les frais.
Ouais.
C'est le même montant.
Hein. Merci pour cette précision. Vous en voulez d'autres, des précisions concernant les actes notariés ? Eh bien, vous nous appelez. On est ravis de vous accueillir au 05 58 46 50 50 avec Laurent Ginesta. Il est là justement pour vous aider, pour vous aiguiller. Donc, un seul chemin, 05 58 46 50 50.
France Bleu Gascogne. France
Bleu. Nous sommes toujours avec notre notaire Laurent Ginesta. Il est là pour nous aiguiller, pour en savoir plus sur l'héritage, la succession, les droits. Enfin, c'est un vaste programme tous les jours avec vous, effectivement. On va parler du droit du conjoint survivant. Qu'est-ce qu'il faut savoir justement sur ces notions du droit du conjoint survivant ?
C'est important parce que les couples, à partir d'un certain âge, réfléchissent à la façon dont pourrait malheureusement se passer la première disparition, qui est toujours un traumatisme. Et à ce niveau-là, quelle est la protection qui est assurée par la loi ou si elle est absente, ne faut-il pas la compléter par des dispositions testamentaires ou des libéralités qu'il faut mettre en place avec son notaire. Juste une petite parenthèse par rapport à l'ouverture de l'émission concernant les divorces.
Divorce, ouais.
Oui, c'est quelque chose d'important. Il y a des couples qui ne vivent plus ensemble, soit séparés de biens ou de corps, ça ne présente aucune particularité, mais en tout cas qui ne vivent plus ensemble maritalement, on va dire, et qui sont toujours mariés.
Ils sont séparés, mais mariés,
parce qu'ils n'ont pas envie de divorcer. Mm-hmm. Ça arrive assez fréquemment, on va dire. Il faut bien se rendre compte que l'époux qui n'est pas divorcé, s'il disparaît, son conjoint, aussi loin soit-il par rapport au lien qu'il pouvait entretenir avec son épouse ou son époux, est héritier. Donc si on ne souhaite pas, si on est séparé matériellement, on va dire, et qu'on est marié, mais qu'on n'est pas divorcé. Soit on est marié, soit on est divorcé.
Ouais.
Depuis une petite vingtaine d'années aujourd'hui, la loi, elle est très claire. Du moment que les époux sont mariés, et que quel que soit l'état d'une procédure de divorce en cours qui traîne, dans lequel peut-être on a abouti à une séparation de corps, c'est-à-dire on n'a pas prononcé le divorce, eh bien, l'époux dit survivant, celui qui survit à son épouse ou son époux qui est décédé, hérite. Ça, c'est important.
Ouais.
Voilà, il hérite. Ah oui, mon épouse, effectivement, moi, je ne la vois plus depuis 10 ans, 15 ans. Si qu'est-ce qui se passe si j'ai, elle hérite.
Donc, c'est automatique.
C'est automatique parce que c'est la loi. Et que la loi dit que, qu'il y ait une procédure en cours de divorce ou qu'on ait même tablé sur une séparation de corps qui ne vaut pas divorce, eh bien, ça ne vaut pas divorce. Et l'époux survivant a la qualité d'époux survivant qui hérite. Mmh. Alors après, si on a quelques minutes, on peut parler des droits du conjoint survivant. Le conjoint survivant hérite, évidemment, depuis 2001, de l'usufruit des biens de son conjoint. De l'usufruit, c'est-à-dire qu'il a l'utilisation des biens, n'a pas la propriété.
Ouais.
Ça, c'est la loi. Encore faut-il qu'il y ait des enfants communs. Donc, famille dite, entre guillemets, traditionnelle, sans vouloir heurter personne.
Oui.
Entre guillemets traditionnelle, l'époux survivant va hériter en usufruit, l'utilisation des biens. Donc, il est protégé. Ce qu'on reconstituait avant 2001, par ce qu'on appelait, dans le langage commun, des donations entre époux. Des donations d'années vivants. Les gens venaient voir le notaire pour dire « je vais faire une donation entre époux, je vais faire une donation d'années vivants ». On s'est tout donné au dernier vivant. Mmh. Eh bien, depuis 2001, pour les couples qui ont des enfants communs et exclusivement ces couples-là, la loi protège et donne cet usufruit qui était celui de la donation entre époux, entre guillemets, la loi le donne automatiquement. Il n'y a que donc, à contrario, que les couples qui n'ont pas que des enfants communs, il peut y avoir des enfants. Monsieur a peut-être eu une vie avant, madame a peut-être eu une vie avant, et dans ce cas-là, cet usufruit n'est pas automatique. On revient sur des dispositions assez anciennes, dans lesquelles les époux doivent se protéger, voir leur notaire, faire un testament ou une donation entre époux pour recréer cette protection du conjoint.
Mmh. Donc là, c'est très important justement parce qu'il existe plein de cas de figure aussi.
Oui, alors si les auditeurs peuvent retenir deux cas, soit j'ai des enfants communs, soit j'en ai pas.
Mmh.
Soit on est exclusivement doté d'enfants communs, soit dans le couple, il y a un époux qui a eu, en fait, famille recomposée, quoi, tout simplement.
Ouais.
Et là, je vais revoir mon notaire parce qu'en fait, ça ne va pas fonctionner.
Et donc, on vient voir son notaire
pour poser
toutes ces questions-là. Ben, merci de nous avoir éclairé encore une fois, Maître Laurent Ginesta, donc notaire. Passez une très bonne journée.